un phénomène qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Pillage de magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
19h03.
Et c'est l'heure du Canu Info.
Du mercredi.
Ce soir,
De quoi on va parler?
Propos de Gaza, les États-Unis bloquent la résolution du Conseil de, qui essaye d'être la résolution du Conseil de sécurité.
Ensuite, on parlera de la ZAD où les expulsions reprennent demain.
À Briançon, une migrante meurt noyée en essayant de fuir la police.
Un flic super équipé espionne une AG étudiante à Paris.
Bolloré perd son procès contre Bastamag.
Ensuite, on va parler de dividendes et on verra pour qui est-ce qu'il s'en met plein les poches.
Un petit conseil de lecture avec des petits extraits d'un très joli article sur lundi matin, un très joli article avec un titre très moche.
Et c'était le point critique des titres. Donc on parlera d'abeilles avec toujours moins d'abeilles, hein, qui fait écho à toujours moins d'oiseaux dont on a parlé il y a quelques semaines.
Et puis peut-être qu'à un moment ou à un autre, on aura une étudiante qui a manifesté cet après-midi dans les rues de Lyon, peut-être au téléphone.
Tout à fait.
Voilà, on part du côté de Gaza où, ça ne vous aura pas échappé, lundi, l'armée israélienne a fait un massacre. Ils ont assassiné tout simplement une soixantaine de Gazaouis qui manifestaient avec rien dans les mains, hein, quand même. Hein. Des armes contre des cailloux. C'est le grand classique de ce côté-là du monde. Alors, évidemment, Israël agit... avec une certaine dextérité, compte tenu du fait qu'il est soutenu par les États-Unis. Et ça se confirme aujourd'hui, alors plus exactement c'était hier, avec pas moins que le groupe des pays arabes qui se sont mis autour de l'ambassadeur palestinien, qui sont venus plaider devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour une protection internationale pour son peuple, des ambassadeurs européens qui sont venus lire une déclaration commune appelant Israël à la retenue. Bon, déjà, c'est quand même invraisemblable d'utiliser ce mot retenu alors qu'ils viennent d'assassiner 60 personnes. Toujours est-il que les ambassadeurs européens qui donc appellent à la retenue, à une désescalade rapide, à un bloc soudé derrière la Palestine, mais tout ça pour rien du tout, puisque les États-Unis ont affiché un soutien sans faille avec leur allié israélien. On peut rappeler quand même l'histoire. Eh bien, lundi, c'était l'ouverture de l'ambassade des États-Unis, désormais à Jérusalem. Et ça, évidemment, c'est un symbole qui met le feu aux poudres. Mais bien entendu, on le sait, et c'est de plus en plus le cas, les États-Unis soutiennent Israël, et avec Trump, c'est encore plus criant. Alors juste quand même quelques images qui valent plus que de longs discours, celle de Nikki Haley, qui était donc l'ambassadrice, qui est l'ambassadrice américaine, qui a tout simplement tourné les talons, alors que M. Mansour, donc l'ambassadeur palestinien, prenait la parole. Cette même ambassadrice qui avait vanté, ouvrez les guillemets, hein, la retenue de l'État hébreu face aux provocations des Gazaouis à la frontière. Donc elle parle de retenue alors qu'ils ont massacré 60 personnes. Et elle a taclé les États membres du Conseil de sécurité qui n'auraient selon elle, certainement pas montré un tel discernement dans des circonstances identiques. Voilà, donc Israël aurait montré une forme de discernement en tuant 60 personnes lâchement. Madame Haley, toujours cette ambassadrice américaine, qui a souligné la responsabilité de l'organisation terroriste Hamas, qui a incité à la violence pendant des années, bien avant que les États-Unis ne décident de déplacer leur ambassade à Israël. Donc c'est un procédé bien connu qui consiste à déplacer le problème et à suggérer que les Palestiniens sont tous et toutes des terroristes, même le petit enfant qui a été assassiné. Voilà. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies se réunira vendredi à Genève. Bien sûr, ça ne donnera pas probablement pas lieu à grand-chose, compte tenu du blocage des États-Unis. RSF, Reportage sans frontières, annonce avoir saisi la Cour pénale internationale concernant, j'ouvre les guillemets, la préparation de crimes de guerre commis par l'armée israélienne contre des journalistes palestiniens. Donc eux, leur credo, c'est d'attaquer sur ce que fait l'armée israélienne contre les journalistes. Ils ont des preuves, ils le disent. Hein. Voilà, il y a des journalistes palestiniens qui ont été tués. Alors deux qui ont été tués, alors depuis mars, hein, une vingtaine d'autres qui ont été blessés. Alors que, j'ouvre les guillemets, ils étaient clairement identifiés par un gilet et un casque barré du mot presse. Voilà, des gens qui sont clairement identifiés se font canarder par l'armée israélienne. Donc, une plainte de RSF, Reporters sans frontières. Voilà, également, un article que je vous suggère qui est assez long à lire, qui est dans le monde diplomatique et qui est gratuitement disponible. Il s'appelle « Renouvellement de l'engagement politique. La jeunesse palestinienne ne s'avoue pas vaincue ». Donc c'est un article du Monde Diplo qui est gratuit, que l'on peut lire, qui explique dans quelle mesure, eh bien, c'est les jeunes qui morflent, hein, les jeunes palestiniens, les jeunes palestiniennes qui morflent, qui sont, y compris des mineurs, qui sont les premiers visés par les tirs d'Israël, et qui sont aussi celles et ceux qui se mettent à vouloir rompre avec une certaine façon de militer de leurs aînés, et qui se mettent en première ligne pour la lutte des Palestiniens et des Palestiniennes. Voilà. Donc ça, c'était pour la page sur Gaza.
Et on part maintenant du côté de Notre-Dame-des-Landes. Trois semaines après avoir décrété une trêve des expulsions sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement s'apprête à repasser à l'offensive, et ce vraisemblablement dès demain. Enfin, c'est pas vraisemblablement, cette fois-ci c'est sûr, dès demain. Opération de gendarmerie, etc. Et du coup, on se rappelle qu'entre le 9 et le 12 avril, 29 maisons avaient été démolies sur les 97 qui étaient censés être illégales à ce moment-là. Et il semble que demain, la préfecture prévoit de s'en refaire une vingtaine peut-être. Seront principalement visés, d'après la préfecture, des lieux dont les habitants et habitantes n'ont pas déposé de projet nominatif. Donc voilà, les lieux existent toujours. Les gens ont été appelés à poser des projets. Il y en a qui ont refusé de le faire. Et donc, a priori, ça serait sans doute plutôt cela qui serait visé demain. Après, bien sûr, on sait qu'entre ce qui est dit, ce qui a l'air légal, ce qui a l'air logique et ce qui est fait, des fois, c'est un peu... en tout cas, lors de la première vague, ça a parfois été un peu étonnant. Mais en tout cas, pour l'instant, l'idée, c'est ça. Et puis, la préfecture voudrait aussi reprendre le contrôle sur les fameuses deux routes qui traversent la ZAD. La route des chicanes et puis une autre là. Mais en tout cas, qui sont toujours des routes où, à des moments, les habitants pour se protéger d'éventuelles interventions des gendarmes ont rendu ces routes difficilement praticables. Puis la préfecture a décidé de fermer administrativement ces routes avant de hurler que c'était scandaleux que les gens puissent pas y circuler normalement. Et donc c'est vraiment de la part du gouvernement et de la préfecture, c'est vraiment un truc symbolique de dire c'est nous qui contrôlons la route et c'est nous qui décidons si elle est fermée ou ouverte, et pas exactement non plus un truc de rouvrir les routes pour que ça soit pratique pour les habitants, habitantes des environs, habitants et habitantes qui sont lesquels sont plus ou moins emmerdés par ça, ou comprennent plus ou moins le processus, enfin qu'ils sont un peu partagés là-dessus.
Ils se sont sûrement adaptés, vu le temps que ça a duré.
Et qui, de toute façon, bien sûr, se sont adaptés. Alors, du côté des zadistes, des appels ont été lancés ces derniers jours pour venir, encore une fois, défendre la ZAD et ses lieux de vie. Alors, voilà, bien sûr, si vous n'avez rien à faire demain, eh ben, sautez dans un train, grouillez-vous. Si vous n'avez rien à faire dans les jours qui viennent, sautez dans un train dès que vous pouvez. Un train, une bagnole ou n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà. Direction Notre-Dame, direction Nantes, direction Notre-Dame-des-Landes, direction la ZAD. Si vous n'avez rien à faire samedi, appel à manifester à Nantes. Et dimanche, appel à reconstruire ce qui aura été bousillé d'ici là. Autant dire que les zadistes s'organisent en amont.
Et est-ce que, du coup, si vous n'avez pas d'autre choix que de rester à Lyon, un rendez-vous circule sur Rebellion le soir même de l'expulsion. Du coup, si c'est demain, c'est demain. Si c'est pas demain, un autre jour. Et c'est à 18h, place Raspail. C'est place Raspail, c'est sûr. Je confirme l'heure en fin de journal.
Très bien.
Vous êtes obligé de rester.
Alors, en tout cas, pour l'instant, les 200 à 300 zadistes qui habitaient ces dernières années sur la ZAD ont été renforcés de toute façon depuis quelques semaines par plusieurs dizaines de personnes qui sont venues en soutien. Depuis l'arrivée des massifs des gendarmes le 9 avril, seule une poignée de zadistes a réellement été expulsée, se désole 20 minutes. Et de toute façon, même ceux dont les maisons ont été détruites, pour la plupart, ils ne sont pas barrés pour autant, ils habitent toujours là. Et donc, il semble qu'on n'ait pas les outils juridiques pour leur interdire d'être là, puisque le gouvernement a dit qu'il fallait virer les habitants les plus radicaux, donc il a certainement des listes de noms. Mais malheureusement, a priori, ils vont où ils veulent, parce qu'ils ont juste le droit d'aller où ils veulent. Ça, c'est quand même un peu un problème, mais c'est comme ça, que voulez-vous. En tout cas, la semaine dernière, 15 projets agricoles. Élevage, maraîchage, pépinière, et puis aussi brasserie, boulangerie, miellerie. Sur les 29 qui ont été déposés par les zadistes, ont été validés par les services de l'État, donc une moitié. Et puis il reste une dizaine d'autres projets qui, alors eux, ne sont pas des projets agricoles, mais des projets artisanaux, qui ont aussi été déposés et qui seront étudiés par l'État dans un second temps. Mais alors, dans le même temps, l'État espérait bien que les 15 dont les projets ont été validés signeraient aujourd'hui les conventions d'occupation précaire. L'intérêt des occupants de la ZAD est de stabiliser leur situation et donc de signer ces conventions. Ça, c'est le discours de l'État. Sauf que, bah, bien sûr, eux, ils trouvent que, alors, ils trouvent déjà qu'ils ont reçu les conventions d'occupation précaire hier. 7 pages pour chaque convention. Et donc, il y en a un qui explique à un journaliste de Ouest-France, avant de signer, il faut quand même qu'on fasse étudier les multiples clauses par nos juristes.
Voilà, et puis ça s'appelle aussi du divide and conquer, comme on dit.
Du coup,
bien sûr.
Divide and conquer.
Diviser pour mieux régner.
Ah.
Tu sais, tu prends la moitié des gens, tu leur dis oui, puis l'autre moitié, tu leur dis non, et puis tu dis à ceux à qui tu as dit oui, que ceux à qui on a dit non, ils sont un peu pénibles, tu vois. Et donc tu as divisé, puis après.
Mais alors là où ça marche pas forcément entièrement, c'est que aujourd'hui, a priori, alors le problème, c'est que je sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste les déclarations de ce matin de Zadis qui avaient des projets qui devaient signer aujourd'hui, mais qui disaient hors de question qu'on signe alors que des expulsions sont annoncées.
Voilà.
C'est quand même là qu'on était parce que les zadistes savent se tenir, mine de rien, devant ce genre de stratégie, effectivement, qui sert à les diviser. Et Ouest-France, alors qui n'est pas exactement connu pour être l'organe de presse des zadistes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand même, devant le genre de catastrophe à la fois de brutalité un peu incroyable qui s'est passée pendant les opérations d'expulsion, à la fois de « bon, bah, malgré tout, les gens sont toujours là », etc., etc., Ouest-France finit par relayer quand même cette question posée par le fameux Marcel Thébault, qui est un des agriculteurs historiques anti-aéroport, et qui se demandait devant le journaliste de Ouest-France hier, l'État veut-il vraiment que ça s'arrange ?
Et du coup, on va à Briançon.
Et on va parler de Matthew Blessing, nigériane de 21 ans, morte en essayant de fuir un contrôle de police. Son corps a été retrouvé le mercredi 9 mai. Et c'est le 7 mai, vers 5h du matin, qu'un groupe de 3 personnes, 2 hommes, 1 femme, donc avec Matthew Blessing, qui marchait sur la nationale en direction de Briançon. Matthew Blessing a mal à la jambe. Elle se fait régulièrement aider dans son parcours. Dans son itinéraire plutôt, pour marcher par ses deux comparses. Pour les migrants dans cette zone, l'objectif est de traverser la frontière franco-italienne en évitant les barrages de flics et donc d'éviter au maximum les routes et de couper par les petits chemins. On rappelle que ça fait bientôt 2 ans maintenant que cette route est devenue une route pour les migrants, parce que 26 000 qui était la route avant où les gens passaient et également prenaient des risques est devenu beaucoup trop fliqué et donc impossible à passer. Et donc c'est du côté de Briançon, qui est une région, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, très montagneuse et donc très périlleuse, que plusieurs, un certain nombre de migrants, on n'a pas les chiffres, mais bref, on s'en fout, tentent de passer par là au péril de leur vie. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc eux, malheureusement, ils croiseront sur leur route 5 flics cachés dans un buisson, qui leur sautent dessus, torche à la main, en le hurlant « police, police ». Le trio s'échappe à travers champs, puis une fois arrivé au village, ils se dispersent. Un premier immigrant est arrêté près de l'église. Les policiers continueront leur recherche pendant plusieurs heures. À partir de là, on est en droit de penser que les flics savent qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel. D'habitude, ils continuent leur recherche quelques minutes, jamais aussi longtemps, et c'est seulement 50 heures plus tard que le corps de Matthew Blessing est retrouvé dans la rivière de la Durance. Dans un premier temps, le procureur déclare dans un élan d'humanité, je cite, « Cette découverte ne correspond à aucune disparition inquiétante. » Pour le moment, nous n'avons aucun élément qui nous permet d'identifier la personne et donc de dire qu'il s'agit là d'une personne migrante. Il semblerait donc que pour le procureur de Gap, quand une migrante disparaît, il ne s'agit pas d'une disparition inquiétante. Peut-être qu'il a raison et qu'il ne s'agit pas non plus d'une erreur. Matthew Blessing est simplement le résultat de la politique migratoire qui veut qu'on positionne des flics dans des buissons pour aller traquer dans les moindres recoins de France les migrants qui tentent de passer la frontière. Mais bien loin d'arrêter ces migrants, cette politique leur fait seulement prendre des chemins de plus en plus escarpés, avec comme résultat tragique que de plus en plus de gens meurent à nos frontières. On va s'écouter une petite musique le temps de faire un appel téléphonique à une étudiante qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui.
Alors qu'à leur directeur, une tribune bonne sœur, la
Yep là. Alors, salut, est-ce que tu nous entends? Allô, allô?
Ouais, je ne nous entends pas super bien.
Tu nous entends pas? Alors, on va être obligé de parler plus fort. Et attends, bouge pas, hop. Est-ce que là, tu nous entends mieux?
C'est mieux, ça pourrait être mieux, mais c'est
ça
mieux.
Ça pourrait être mieux. Alors, tends l'oreille, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire mieux.
Ok.
Alors, est-ce que... Alors, toi, tu étais à la manif aujourd'hui, qui avait eu lieu au départ de Gédo Mendens France, c'est ça?
Allô?
Oui.
Ouais. Et, j'étais à la manif?
Oui, tu étais à la manif. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est déroulée cette manifestation qui avait l'air d'être, de s'être passée de manière un peu étrange?
Comment?
Ça avait l'air de s'être déroulée de manière un peu étrange.
Oui, alors bah, cette manif-là, en fait, c'est une manif qui a été proposée dans la mobilisation étudiante il y a 3 jours. Et c'était une manif plus ou moins sauvage quand même. Il y a eu plusieurs fois l'idée de la déclarer, mais finalement, ça n'a pas été fait. On s'est réunis à Gédo Mendens France à 14h.
Ouais.
Et sur place, il y avait déjà en fait une quinzaine, une quinzaine de camions de CRS. Et il y avait notamment aussi un canon à eau.
Ah oui, donc, tout de même. Mais donc du coup, c'était une manif sauvage, mais pas complètement surprise. C'était sauvage, mais pas complètement une manif surprise pour la police.
Super
mal. Ouais, vas-y, continue.
Bah voilà. Donc on était peut-être 200-300 à être réunis à Gédo Mendens France à attendre de savoir si on pouvait ou non démarrer la manif. Au final, il y a eu des négociations qui ont été faites avec les policiers en place et le parcours de la manif a été accepté par eux et on a commencé à circuler en étant en fait nassés tout le long. Donc voilà, on était... ça, je pense 300, peut-être un peu plus, et on est allé jusqu'à la préfecture de police de Saxe-Grand-État.
Ouais.
Et sur tout le long, on pouvait ni sortir en fait de la nasse policière, ni re-rentrer si on avait réussi à sortir plus tard ou si des copains voulaient nous rejoindre. Donc voilà, c'est un peu une ambiance de nasse mobile.
Ouais, c'est ce qui est donc un peu, en tout cas pour Lyon, une première hein, sur.
Allô?
Oui, tu m'entends?
Ouais. Attends, j'avais mis le haut-parleur, peut-être que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hey.
Ouais.
Allô?
Ça y est, t'as enlevé le haut-parleur. Est-ce que tu nous entends mieux?
Donc.
Oui. Est-ce que tu m'entends mieux?
Je t'entends.
Ouais, ah bon, ça va. Oui, du coup, vous êtes arrivé à la préfecture, vous avez pu sortir rapidement, ils vous ont, j'imagine, laissé sortir. Alors, avec des contrôles.
Désolé, sincèrement, je tends l'oreille, mais j'entends rien.
Merde. Alors, attends, bouge pas. Est-ce que là, t'arrives à mieux m'entendre maintenant?
Ouais.
Ouais, ça va mieux?
Oui,
ah super, oui, du coup je me demandais, vous avez réussi, donc là toi t'es plus dans la nasse et vous avez réussi à sortir, est-ce que du coup ils vous ont contrôlé, fouillé tous les sacs comme ils font d'habitude ou c'était plutôt...
Je t'entends pas, je suis désolée.
C'est pas grave, raconte.
Bon, ouais, on va faire plutôt comme ça, je vais raconter un peu la manif.
Ouais, carrément.
Ok. Alors comme je l'expliquais, on a fait le trajet de Gédo Mendens France jusqu'à la préfecture de police. C'était une manif qui, à la base, était quand même étudiante, mais dans l'idée, on avait quand même aussi beaucoup de personnes qui étaient présentes, qui venaient de l'amphiz. Attention, attends, coup de peur qui passe à côté. Voilà. On avait des gens qui venaient de l'amphiz, le squat en fait où a été hébergé des migrants qui à la base étaient hébergés dans l'amphic du campus de Bron. On avait pas mal aussi d'affichages concernant la loi Or et à la fin on s'est réunis à la préfecture de police et également pour rejoindre un petit cortège en fait qui était composé de mineurs isolés, de mineurs sans papier. Et on les a rejoints et lorsqu'on est arrivé devant la préfecture de police, on s'est fait stopper par les CRS en fait qui nous nassaient depuis le début, qui ont accepté après négociation qu'on rejoigne aussi le cortège des mineurs sans papier. Et voilà, donc à la fin, on s'est juste retrouvés tous ensemble avec des slogans et avec des petits discours liés à tout ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'abrogation de la loi Or qu'on demande, l'abrogation aussi évidemment de la loi sur l'immigration et ce genre de trucs.
Du coup, est-ce que vous avez été rejoint à la fin par la manif?
Est-ce que quoi?
Est-ce que vous avez été rejoint à la fin par la manif de RESF?
La manif de
RESF.
Qu'est-ce que c'est RESF?
Et la manif, il y avait une manif du réseau Éducation sans frontières. Non, décidément, tu m'entends beaucoup trop mal. Et est-ce que tu peux, si tu m'entends suffisamment, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les prochaines actions?
Je t'entends vraiment que dalle.
Ah bon, bah alors on essaiera de peut-être rappeler plus tard, sinon on va passer une musique.
Allô?
Ouais, allez, ben on se dit à bientôt et merci en tout cas d'avoir décroché ton téléphone. Salut.
Bon, et bien devant ce genre de galères techniques, on se dit qu'on n'a qu'à raconter les trucs nous-mêmes et puis ça sera très bien comme ça. Par exemple, pour rester dans le mouvement étudiant, on va parler d'une petite histoire qui se passe à Paris 8. Alors, ça tombe bien, on ne connaît personne à Paris 8, du coup, pas de souci de téléphone. Et en tout cas, cette histoire date de jeudi dernier. Jour où il y avait une AG, occupation du mouvement étudiant, blabla, Fac Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, nanana. Bon, et alors, pendant l'AG, il y a des gens qui repèrent un individu au comportement étrange. Alors, il faut dire qu'il était plus âgé que les étudiants, qu'il était tout seul, qu'il connaissait personne et qu'il avait un look de RG. Autant dire que moi, ça m'est déjà arrivé de me faire prendre pour un flic dans une manif. Mais en même temps, là, en l'occurrence. Alors les gens le mataient, puis quand même c'était bizarre parce que il était à un endroit, puis finalement il changeait d'endroit, il changeait de position. En tout cas, les gens finalement vont le voir et lui demandent et demandent à lui parler à l'extérieur de l'amphi. Là, il se présente, il donne un nom, il dit qu'il s'appelle Damien Rigaud, qu'il est viticulteur dans le sud de la France et qu'actuellement il est étudiant en œnologie. Au moins, il doit se dire qu'il n'y a pas trop de gens qui risquent de le démentir. Et que pour l'instant, il habite à Aulnay-sous-Bois. Alors il explique encore plusieurs trucs. Il dit qu'il est très très actif dans l'accueil des migrants, que à cause de ça il a eu des problèmes avec la gendarmerie du côté de chez lui, etc., etc. Bon, les gens ils disent ok, tu dis que tu t'appelles comme ça, bah est-ce que t'as un papier d'identité à nous montrer? Lui non, il avait aucun papier sur lui. Du coup les gens lui demandent non mais en fait est-ce que t'es un flic? Là il dit non. Les gens lui demandent est-ce que t'es un RG? Là il dit je sais pas ce que ça veut dire RG, jamais entendu ce mot.
Ah mais il dit pas non quand même.
Et il dit pas non. Il ne dit pas non. Et ça sur Paris Lutte c'est bien considéré comme un signe que ça voulait dire oui. Mais bon, en tout cas, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont réellement oui quand même. Et à ce moment-là, les gens remarquent un fil qui dépasse de sa sacoche. Et ce fil est relié à un bouton, alors qui ressemble vraiment à, il y a des photos, à un bouton, un bouton de veste, quoi. Mais un bouton qui, là, en l'occurrence, est boutonné sur la sangle de son sac.
Et c'est James Bond, ton truc, là.
C'est grave James Bond, parce que le matos qu'ils ont sorti, les gens, du coup, ils tirent sur le fil, ils récupèrent le sac. Lui, à ce moment-là, il essaye de se barrer, mais les gens l'empêchent de se barrer. Il récupère quand même un boîtier d'enregistrement avec carte SD, une caméra, un micro, sa sacoche, des prises de notes. Et en l'occurrence, vraiment, on voit les photos du machin, c'est que la caméra est logée dans un bouton qui ressemble vraiment à un bouton de chemise, quoi. Et qui était vraiment boutonné à la sacoche du pantalon. Et de ce bouton sort un petit fil qui va à un enregistreur. Bon, en l'occurrence, sur Paris Lutte, il y a même le lien pour qu'on puisse aller admirer le modèle du machin chez les gens qui le vendent. Mais en tout cas, voilà, il est effectivement venu enregistrer et filmer l'AG.
Il n'y a plus de sous pour les pansements dans les écoles, mais il y a des boutons qui servent de caméra pour les...
Qui était ce James Bond? Parce que les étudiants, eux, alors ils ont aussi, avant de laisser partir, ils ont aussi pris son portable, ils ont regardé s'il y avait des photos sur son portable, parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir leur tronche en photo sur son appareil, mais ils n'ont pas trouvé de photos, et du coup, ils l'ont laissé partir, finalement. Après son départ, l'inspection du matos récupéré nous a conduit à remarquer la minuscule caméra intégrée au bouton. Nous avons visionné les enregistrements vidéo de l'AG. Malgré sa taille, la caméra donne une image grand angle avec une très bonne qualité sonore. Nous faisons tellement peur à l'État pour que de tels moyens soient déployés contre nous pour nous observer. Et alors là, le site Lundi Matin s'est penché sur cette histoire et alors raconte toute cette histoire suite à Paris Lutte et ajoute pour le moment rien ne permet d'affirmer formellement qu'il s'agit bien d'une surveillance policière dans la mesure où voilà on n'a pas de preuves. Le doute étant toujours permis. Et rien n'empêche d'imaginer que, par exemple, ça pourrait être un journaliste qui aurait refusé de se présenter comme journaliste et qui aurait préféré abandonner 700 euros de matériel derrière lui plutôt que de présenter ses excuses et sa carte de presse. Autant dire que Lundi Matin, eux-mêmes, ne prennent pas très au sérieux leur hypothèse. Pour essayer d'en savoir davantage, nous avons, donc c'est Lundi Matin toujours, nous avons depuis vendredi joint à une dizaine de reprises les services de presse de la préfecture de Paris. Nous leur avons transmis une liste de questions précises. Est-ce que ce matériel leur appartient? Le cas échéant, quelle était la mission du policier présent ce jour-là? D'autres surveillances de ce type ont-elles été menées à l'Université de Paris 8 ou ailleurs? De telles pratiques sont-elles légales? Comptez-vous récupérer le matériel saisi? Mais alors, à toutes ces questions, malheureusement, et malgré l'insistance des journalistes de Lundi Matin, aucun des interlocuteurs à la préfecture n'a accepté de répondre. Le service de communication de la préfecture n'infirme ni ne confirme quoi que ce soit, et ils disent plutôt qu'ils ne sont pas au courant. Et donc, il semble que ça fait 4 jours au moment où l'article est écrit, qu'ils attendent une remontée d'informations des services compétents.
Et on va faire un tour du côté de nulle part, puisqu'on va continuer à parler presse. Voilà, et ben j'ai retrouvé mes notes. Alors, et ben c'était il y a 5 ans, et le groupe Bolloré et sa holding luxembourgeoise Socfin, perdent définitivement leur procès en diffamation contre le journal tant aimé dans ce Canu Info, j'ai cité Bastamag. Le groupe Bolloré avait porté plainte pour un article publié en 2012 dans le journal intitulé, je cite, Bolloré Crédit Agricole Louis Dreyfus, ces groupes français champions de l'accaparement des terres, de terres. Alors l'enquête pointe du doigt le rôle de grandes entreprises françaises dans l'accaparement des terres en Afrique, en Amérique latine et en Asie. L'article évoque également la holding de Bolloré, Socfin, qui possède une trentaine de sociétés dont certaines gèrent des plantations d'EVA et de palmiers à huile en Afrique et en Asie. Il me semble que tout ça, on en avait parlé il y a quelques semaines. Ce type de plantations, pour résumer, sont très critiquées par les populations locales et les ONG, car elles sont un ravage tant sur le plan écologique qu'au niveau des droits humains. Vous imaginez quand même assez bien Bolloré en avoir à peu près rien à foutre de tout ce qui pourrait être écologie, droit du travail ou néo-esclavagisme, par exemple. Alors, la Cour de cassation a donc confirmé que l'article gênant pour Bolloré rentrait purement et simplement dans le cadre du débat, je cite, d'intérêt général et, je recite, reposait sur une base factuelle suffisante. Bolloré avait également attaqué en justice d'autres sites et blogs ayant relayé l'article. Alors ça va de rue 89 à un retraité de l'éducation nationale et un ébéniste qui ont mis l'article en lien sur leur blog. Ces poursuites sont bel et bien une stratégie du groupe Bolloré et de son service juridique. Le groupe attaque en diffamation n'importe quel organe de presse ou blog, comme on l'a vu juste avant, s'ils écrivent un article peu satisfaisant au regard du roi Bolloré, Mediapart, Le Point, L'Obs, France 2, tout le monde y passe quand même, la preuve. Également des ONG comme Sherpa et React. Le but de la stratégie n'est évidemment pas forcément de gagner les procès. On imagine quand même assez bien comment doivent être grassement payés les membres du service juridique du groupe Bolloré. Et on imagine donc assez bien qu'ils ne sont pas dupes sur le résultat du procès.
C'est ça, c'est que souvent c'est un peu couru d'avance que leurs procès ne sont pas gagnables, parce que juste ils ont tort de manière un peu évidente.
C'est ça. Et donc leur but, c'est de décourager, d'étouffer et de faire hésiter un petit journal à enquêter, parce qu'eux ont des moyens complètement colossaux et peuvent allouer un ou deux clampins d'un service quelconque à surveiller la presse et dès qu'il y a un article, à dire allez hop, on dépose des plaintes et vous bossez là-dessus et vous montez un petit truc, machin. Pour eux, ça, ils en ont rien à foutre. Pour un journal comme Bastamag, et ben, eux ont fait le calcul et ça leur a coûté 13 000 euros. Alors ils disent voilà, 13 000 euros hein, en articles payés, ça correspond à peu près à 10 articles. Donc ça fait à peu près 10 ou 15 articles, je ne me souviens plus de mémoire, qui ne pourront pas passer. Pas suite à une censure directe de Bolloré, mais à ce procès-là et par un manque d'argent. Alors bon, bah, si vous avez bien sûr quelques euros, allez donc sur bastamag.net et lâchez-leur un petit bifton, parce qu'ils en ont vraiment besoin, et vous allez voir qu'ils en ont vraiment besoin.
10 articles, mais attends, ça veut dire que si on écrit un article sur Bastamag, on est payé 1300 balles?
Ouais, bah c'est-à-dire qu'ils payent leurs journalistes un peu mieux que le SMIC, quoi.
Ah ouais.
Ouais, bon, ici on n'est pas payé, mais bon, en même temps, nous on veut pas être payé, hein, c'est pas la même chose, mais bon, voilà. Il n'en reste que c'est des gens très bien. Et donc, en tout cas, file-leur du pognon, parce que nous, on en a plus besoin, on est propriétaire, tout ça. Maintenant, eux, ils en ont vraiment besoin, et ils en ont d'autant plus besoin qu'un deuxième procès en diffamation les attend. Et devinez pas qui a porté plainte? Un indice, il s'agit d'un article qui parle d'accaparement des terres en Sierra Leone. Et ben voilà, c'est
ah tiens,
vous
c'est
avez
Bolloré.
Trouvé, c'est Bolloré et sa filiale Socfin. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on continue la revue de presse de Bastamag ou t'as trouvé ça dans un autre journal?
Eh ben, t'as à moitié perdu, à moitié gagné.
Ah.
Donc, c'est bien fait pour ta tête. Voilà. Donc, toi, le jeune, tu dois avoir, évidemment, un maximum d'actions vis-à-vis du CAC 40. Mmh. Et tu t'en mets plein les fouilles toute l'année. Eh ben, t'as bien raison, parce que, bien entendu, je dis ça avec cynisme, mais c'est ce que nous dit l'ONG Oxfam. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est assez terrifiant ce qui se passe au niveau des dividendes des actionnaires. Alors je vous lis un petit peu le rapport d'Oxfam qui effectivement est présent dans la section inégalité du journal Bastamag, mais qui a été repris largement un petit peu dans la presse. Voilà. Alors donc le CAC 40, c'est 40 plus grosses entreprises françaises qui sont donc en bourse et vous pouvez acheter des titres boursiers. Et en fait, ça vous dit quelque chose de l'histoire du ruissellement? Non.
Ah,
c'est le super truc à Macron, vous savez, ou alors en fait.
Plus les riches sont riches, plus les pauvres sont riches aussi.
Voilà.
Ah, donc en fait. Alors tu vas nous dire que ça marche en fait.
Ouais, ça marche juste. Alors t'as dit plus les pauvres sont pauvres ou plus les pauvres
non, sont... plus les pauvres sont riches, c'est l'idée du ruissellement.
Voilà, absolument.
Tu files de la thune au très riche qui va la dépenser auprès du un peu moins riche, qui lui-même va la dépenser auprès du un peu moins riche, et à la fin, le dernier va filer 100 balles au clodo dans la rue. Tout le monde a profité de l'argent qui a été donné au rupin.
Eh ben, ça va vous étonner, mais ça marche pas.
Ah merde.
Non, c'est pas vrai, c'est vrai.
Bon, alors j'y vais sur ce rapport de l'ONG Oxfam. Effectivement, c'est complètement bullshit cette histoire de ruissellement. Les plus grosses entreprises françaises viennent, vous l'avez peut-être vu, d'annoncer des bénéfices records de plus de 93 milliards d'euros pour 2017. Donc les entreprises sont dans une santé faramineuse et il n'y a pas du tout de ruissellement. Depuis 2009, nous dit donc cette ONG, les deux tiers de ces bénéfices, donc les bénéfices des entreprises françaises, ont été reversés, donc les deux tiers reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. Il y a un petit tiers qui a été réinvesti et pour les salariés, il y a eu 5% de tout ça qui a été donné aux salariés. Bon, donc vous voyez le truc, on fait des bénéfices, les deux tiers, donc 66%, va pour les actionnaires, point barre. Un petit peu pour faire des investissements et puis très peu pour les salariés. Alors 6 entreprises ont même versé plus de 90% de leurs bénéfices en dividendes. Il y a Veolia, Veolia, c'est lyonnais, c'est un peu facile à la base, non? C'était. Ouais, c'est la pas la Lyonnaise des Eaux, voilà. Orange, et puis Total. On aime bien Total ici, la radio Cadu. Plus de 90% de leurs bénéfices en dividendes. C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils récupèrent, ils le filent aux actionnaires. Alors donc la France serait ainsi championne du monde de la rémunération des actionnaires. Cerise sur le gâteau. Grâce aux réformes du gouvernement Macron, monsieur Ruissellement, eh bien les revenus financiers sont maintenant exonérés d'impôts sur la fortune et ils sont soumis à un prélèvement forfaitaire maximal de 30%. C'est la flat tax qui dit qu'en fait, il n'y a pas de progressivité de l'impôt sur ce que vous gagnez avec les actions. Donc ça tombe bien. En fait, c'est vraiment un système avantageux pour les actionnaires.
Et moi, j'avais l'impression, parce que quand on lit les articles comme ça, on a toujours un peu l'impression que les riches, ils ont toujours envie de partir de France, parce qu'à chaque fois qu'ils gagnent un euro, on leur en prend quatre.
Et bien là, je peux te dire qu'ils en gagnent des euros. En preuve, alors évidemment, les heureux actionnaires qui sont principalement donc les bénéficiaires de tout ça, c'est beaucoup les gros fonds d'investissement. Donc les fonds d'investissement, c'est selon votre perception. Soit on peut appeler ça des verrues, on peut aussi appeler ça des parasites de la société. Ce sont des entités semi-physiques qui ne font rien d'autre que ils produisent pas de travail, ils font rien d'autre que être dans la sphère financière et faire des échanges de bifton pour essayer de faire de la plus-value. Donc c'est vraiment du parasitisme horrible. Alors c'est eux qui gagnent un maximum de ces donc les bénéfices sont.
Mais les parasites, je croyais que c'était nous. On comprend rien.
On comprend rien décidément
tout
à cette radio.
Il
y a aussi des grands groupes familiaux type Arnaud, Bettencourt, Michelin qui gagnent des sous. Et puis l'État français. Alors l'État français ne détient que 3% des actions du CAC 40. Donc l'État français récupère un petit peu de ses bénéfices, mais finalement pas grand-chose. Alors à quoi aurait pu servir cet argent qui a été distribué aux actionnaires, hein? Eh bien, par exemple, elle aurait pu servir à revaloriser les salaires, hein? Donc, toujours ce rapport de l'ONG Oxfam qui nous dit si les entreprises du CAC 40 avaient choisi de maintenir en 2016 le niveau des dividendes de 2009, qui était déjà hyper balèze, et d'augmenter les salaires des employés plutôt que d'augmenter les dividendes, alors l'ensemble des travailleurs du CAC 40 auraient pu leur revenu augmenter d'environ 2000 euros par an et par employé.
C'est pas. Alors peut-être que pour les actionnaires qui nous écoutent, ça paraît pas grand-chose, mais en tout cas, a priori, pour les gens qui gagnent le SMIC, c'est pas mal.
Voilà. Alors au contraire, les dividendes donc, ont augmenté de près de 60%, soit pratiquement 3 fois plus que la moyenne des salaires depuis 2009. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi avec cet argent qui a été donné aux actionnaires? On pourrait éviter des licenciements. Depuis 2011, les principaux plans sociaux des entreprises du CAC 40 n'ont permis d'économiser que 0,6 à 5% des volumes de dividendes. Alors ça, je ne comprends pas cette phrase. En tous les cas, réduire la rémunération pour sauver l'emploi, ça, ce n'est pas possible. La rémunération des gens qui reçoivent les dividendes, la rémunération des actionnaires, ce n'est pas possible. Il faut éventuellement distinguer, faire des licenciements et toujours choyer ces fameux actionnaires. Alors une autre suggestion qui est un peu plus terre-à-terre, ça aurait été d'investir dans l'appareil productif, des investissements qui auraient pu créer et de maintenir l'emploi de demain, nous dit toujours cette ONG Oxfam. Alors, il y a quand même certains salariés qui ne souffrent pas de cette politique. Il faut quand même en parler. Ce n'est pas tous les salariés qui souffrent. Il y a certains salariés qu'on appelle donc les dirigeants du CAC 40. Alors, eux, ça va, hein, ça va. Ils ont des rémunérations qui sont comprises entre 1,5 et 10 millions d'euros en 2016, à peu près comme nous, ici sur Radio Canu. Alors c'est 46...
Ah ouais, mais personne ne m'a prévenu. Attendez, alors Bastamac, non, je ne vais pas écrire d'article pour vous, on a mieux à la maison.
Mais c'est sur ton compte.
Voilà, donc en moyenne, les PDG du CAC 40 gagnent aujourd'hui 257 fois le SMIC. Voilà. En 2009, c'était juste 97 fois le SMIC. Donc on est vraiment les champions des inégalités en France. Donc je le répète, c'est un chiffre, vous pouvez dire à table, dimanche, voilà.
Histoire de bien 250, vous envoyer.
Voilà. Les PDG du CAC 40 gagnent aujourd'hui environ 257 fois le SMIC. Voilà. Et 119 fois plus que la moyenne des salariés. Carlos Ghosn, par exemple, qui fait des voitures, lui, il s'est augmenté son salaire de 469%. Le DG de PSA, les voitures, toujours. Hein, vous vous rappelez, les voitures, ça pollue. Hein, puis changer de modèle, éventuellement de déplacement, non, ça, on n'y pense pas, parce qu'il faut toujours regarder les voitures, soi-disant pour garder des emplois. Sauf que c'est peut-être pour garder l'augmentation de 347% du directeur général de PSA. Voilà. Donc c'est la conclusion de ce rapport d'Oxfam. J'ouvre les guillemets, ces écarts de salaire placent la France parmi les pays les plus inégaux au niveau international. Ainsi, l'écart voilà, donc entre les rémunérations des PDG du CAC 40 et le revenu moyen est d'environ 143, soit un ratio légèrement supérieur à celui de l'Allemagne et plus de 7 fois plus élevé qu'en Norvège. Juste pour vous mentionner que, également, il existe... ils s'entendent très bien avec Bastamag, ça s'appelle l'Observatoire des multinationales. Et le 11 mai, donc le rapport d'Oxfam, il date d'avant-hier. Et l'article dont je vais vous parler, il date du 11 mai. Ça s'appelait « Dividendes, les actionnaires ont coûté 55 milliards au CAC 40 en 2007 ». Donc ils ont à peu près fait la même manipulation, les mêmes calculs. En particulier, ils ont isolé un investisseur, alors plus exactement un gros fonds d'investissement qui s'appelle BlackRock, qui est vraiment l'archétype du parasite, comme je vous disais, hein, au sens où un parasite qui peut éventuellement se servir d'un hôte pour utiliser ses ressources et vivre tout seul, tranquille. Voilà, BlackRock, c'est une énorme société qui pompe tout ce qui est des bénéfices des entreprises du CAC 40 et au travers des actions. Et en particulier, il y a un article dans Mediapart qui est sorti le 8 mai aussi, qui s'appelle « BlackRock, ce léviathan de la finance qui pèse sur les choix européens ». Alors je vous lis juste le début. « BlackRock est l'institution financière la plus puissante au monde, gérant plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs, des actifs des actions, à la fois conseiller des banques centrales, super, et principal actionnaire des fleurons industriels nationaux, super. BlackRock murmure désormais à l'oreille des États, ses combats, contrer toute régulation financière et imposer la retraite par capitalisation pour tous. » Voilà. Donc c'est vraiment horrible. Alors, juste par exemple, pour finir, donc cette structure qui pompe les bénéfices des entreprises pour les redistribuer donc aux actionnaires, à l'automne 2017, elle a été invitée par le gouvernement français à siéger au Comité Action Publique 2022, CAP 2022. C'est une espèce de sorte de deuxième commission Attali censée dessiner les futurs contours de l'État. Et qu'est-ce qu'on pourrait lire ?
Eh ben, on pourrait lire un petit article sur Lundi Matin. Alors, Lundi Matin, ils parlent beaucoup des cortèges de têtes, ils aiment bien ça, et ils en ont pas mal parlé ces derniers temps, en parlant d'un truc relativement novateur. Alors, il s'avère que on dirait qu'ils sont un peu jeunots, et c'est ce qu'a pensé quelqu'un qui les lisait, et qu'il aura écrit pour raconter ses années 70 à lui. Alors c'est un gars, juste pour visiblement c'est
voilà,
un mec.
L'idée qui courait, c'était que voilà, ces cortèges de tête dont on a beaucoup parlé avec les Black Blocs, c'était un truc nouveau, récent, et donc ce que tu dis, c'est que c'est peut-être pas ça.
Et donc Lundi Matin publie son texte, alors sous un titre un peu à chier, qui est Le cortège de tête, une tradition française, point d'interrogation. Mais là n'est pas l'important. L'important, c'est que son texte est hyper beau, en fait. Et ça donne. Alors voilà, j'ai préparé des petits extraits. On se retrouve dans la cité des 4000 à La Courneuve, après qu'un patron de bar a tué un jeune du quartier. On est à l'affût de toutes les occasions. On repère des chantiers, on récupère du matos sur le chemin, on ne perd jamais du regard les possibilités de fuite. Un 1er mai de ces années-là, on a une bonne centaine à tenter de passer en tête de la manif du côté de l'hôtel de ville. Le SO de la CGT intervient immédiatement, la bataille rangée à coups de bouteilles trouvées sur place va durer plusieurs dizaines de minutes. En 1973, le mouvement contre les lois Debré et l'armée fait descendre des dizaines de milliers de lycéens dans la rue. Les premières lignes de manif rassemblent des centaines de mecs casqués. Du côté de la porte d'Italie, le 22 mars, on est plusieurs centaines à attaquer les flics avec du ballast de la petite ceinture. En mars 1974, lors de la manifestation suite à l'assassinat de Puig Antich, une armurerie est pillée dans le 19e, du côté de Jaurès. C'est vers cette époque que l'idée vient, sans qu'il y ait eu de véritables discussions préalables, de se mettre en avant des cortèges officiels. On attaque, on agace les flics qui souvent marchent à reculons. on casse. Et comme c'est arrivé plusieurs fois, c'est le cortège qui course les incontrôlés. Alors, il faut dire que l'époque dont ils parlent, c'est donc l'époque où mai 68 s'est terminé. Eux, c'est un peu les petits frères de mai 68. Et par contre, lui, il ne se situe pas du tout du côté des autonomes. C'est-à-dire qu'à un moment, lui dit qu'il considère en tout cas que les autonomes, ça s'est apparu en 78. Et lui, sa génération, c'est vraiment une sorte de génération charnière entre les deux. On pense redonner plein sens à ce qu'est véritablement faire la fête. On n'est pas dans cette stratégie que l'on considère manipulatrice, qui consiste à attaquer la police pour montrer le caractère répressif de l'État. On a des comptes à régler avec le monde. On parle en notre nom, on se pense sujet. Plus gravement, certains affirment que cette colère est partagée par le plus grand nombre, que l'écrasement syndical et la répression policière ont pour l'instant réussi à la faire apparemment disparaître, mais que notre présence et nos initiatives peuvent prouver à ceux qui se sentent isolés dans leur colère qu'ils ne sont pas seuls. On n'est pas désespérés. À chaque printemps qui revient, on est sûr que ce sera enfin le bon. Personne ici n'est affilié à un quelconque groupe militant. On déteste la politique, le travail et les étudiants. Mais surtout, on n'aime pas les flics. Ils sont non seulement l'ennemi héréditaire, mais ce sont aussi ceux qui étaient main dans la main avec les nazis 30 ans auparavant. Eux qui ont massacré à Charonne, et, même si on en parle peu à l'époque, ceux qui ont jeté les Algériens à la Seine, tué des ouvriers à Sochaux, noyé le lycéen Gilles Totin, eux que l'on a sans arrêt sur le dos dans notre vie de tous les jours. On fait parfois référence à des bouquins, à des événements historiques. Aucun projet ne s'exprime, sinon celui de l'immédiat. Il y a là des lycéens, des intérimaires, des petits bandits de quartier, des zonards toujours sur le départ, des salariés. On n'a pas de drapeau, même si une culture anarchiste un peu voyou apparaît de temps en temps chez certains. Il y en a qui viennent de la banlieue et qui ont connu très tôt les baffes policières et les heures de garde à vue. Voilà, c'était des petits extraits de ce texte, mais qui est relativement long, mais qui a tout le temps cette espèce de ton... un peu épique, un peu... une sorte de petite poésie de la révolte.
Et en tout cas, dans ce que tu viens de dire et du coup ce qu'il raconte, on peut voir que quand les médias parlent de Black Bloc de plus en plus violent, tout ça, je veux dire, on est quand même bien loin aujourd'hui d'une armurerie pillée. Ça avait l'air d'être quand même un autre degré d'affrontement et de violence.
C'était un autre degré d'affrontement, oui.
Et ça me fait penser justement à un article d'Acrimed qui parle du traitement de la manif du 1er mai. Justement, Acrimed, un article qui est sorti le 7 mai, qui explique qu'effectivement, en fait, une manif, vu la taille que ça prend, puisque ça prend beaucoup d'espace, il faut qu'elle soit relayée, parce que vous n'êtes pas nécessairement à Paris, par exemple, vous n'êtes pas nécessairement là à compter les gens. Donc il faut une manif, c'est intrinsèquement par la presse que son succès peut aussi avoir lieu, quoi. C'est-à-dire il faut relayer ce qui s'est passé en manif pour que la manif marche. Et donc c'est ça qu'ils expliquent, c'est que pour le 1er mai, la façon de relayer ce qui s'est passé au 1er mai, c'était le fameux écran de fumée, de parler de ce cortège Black Bloc, où visiblement il y a trois pauvres, enfin je crois qu'il y a 21 pauvres distributeurs qui en ont pris plein la tronche, et puis il s'est rien passé, quoi. Il n'y a pas eu de dégâts de quoi que ce soit.
Ah, oh, ils ont cramé un McDo.
Oui, mais bon, on peut considérer que c'est pas grand chose quand même. Et voilà, donc ce article d'Acrimed montre bien dans quelle mesure finalement la qualité d'une manif, sa répercussion peut être effondrée par le fait que la presse se ligue un petit peu, peut-être en y faisant exprès ou pas, en agitant des nuages de fumée qui cachent la vérité, quoi. Voilà.
En même temps, moi, le soir du 1er mai, en écoutant la radio de chez moi, écoute, là, cette phrase que je viens de lire, blabla, présence, initiative, peuvent prouver à ceux qui se sentent isolés dans leur colère qu'ils ne sont pas seuls. Moi, c'est quand même un peu l'effet que ça m'a fait, les histoires du 1er mai.
Alors par contre, celles qui se sentent un peu seules, on va passer ouvrir la page un tout petit peu écologique.
Attention à la transition.
Alors c'est pour l'Oscar de la transition la plus pourrie, nous avons donc les Black Bloc et les abeilles. Voilà. Non, c'est deux articles qui sont plutôt écrits façon... façon comment ça s'appelle le truc des façon les nuls ou façon bon ils sont écrits un petit peu comme dans des journaux où on écrit un petit peu façon sensationnelle, toujours est-il qu'ils relatent des vraies choses. Voilà, il y a un épandage qui aura suffi à tuer près de 2 millions d'abeilles en une journée. C'est ce qui est arrivé fin avril à Nicolas Puech, un apiculteur de la Haute-Garonne. Donc ça, c'était dans 20 minutes, quoi, j'ai trouvé ça. Donc en fait, c'est un agriculteur qui l'a sollicité pour qu'il vienne polliniser son champ de colza. Donc il a déplacé une partie de ses ruches qui sont en bio, qui sont en Ariège. Et donc au total, 24 colonies, soit près de 2 millions d'abeilles, se mettent au travail pour polliniser son champ de colza. Et 3 jours après, en fait, dans un champ voisin, il y a un agriculteur qui utilise un fongicide. Un fongicide, c'est un produit qui tue les fungus. Fungus, c'est les champignons. Et ben voilà, ils sont allés voir les ruches et en fait, tout était mort. Toutes les abeilles étaient mortes. Et donc, il explique que, en fait, l'agriculteur n'a pas fait ça sciemment, mais qu'il a utilisé un produit qu'on appelle phytosanitaire et qui est donc, qui a été fatal à ses abeilles. Alors, j'ouvre les guillemets. Nous ne voulons pas accabler l'agriculteur qui a fait ce geste de bonne foi. Nous voulons tirer la sonnette d'alarme et montrer qu'il existe réellement un problème avec les problèmes. Un énorme problème avec les produits phytosanitaires. Chaque année, on perd énormément d'abeilles sans pouvoir l'expliquer. Là, l'intoxication est prouvée par les analyses. Voilà, donc c'est vraiment, quelque part, c'est une quasiment expérience qui a été faite. Et ils ont bien montré qu'avec des produits qui sont épandus dans les champs, on tue les abeilles.
Des produits qui ne sont même pas des insecticides. Pour
voilà, voilà, ouais, ouais, non, parce que les champignons, ça n'a rien à voir avec les insectes, effectivement. Mais les pesticides, les insecticides, les fongicides, c'est toute une catégorie de produits qui sont utilisés par l'industrie intensive qui ont tendance qui tue les abeilles, tout simplement. Alors, c'est un autre article de La Montagne. Moi, je lis La Montagne, et oui. Les abeilles meurent par millions en Creuse comme ailleurs. Alors, en fait, ils sont allés voir un monsieur qui s'appelle Robert Charles, qui a 86 ans. Ça fait 70 ans qu'il s'occupe des ruches. Et en fait, sur ces 50 ruches qui sont installées dans son berger, donc dans la Creuse, il n'en reste que 8 qui sont vivantes. Et en fait, tout est mort. Tout a disparu. On ne sait même pas comment. Et elle végète comme une personne malade s'il reste quelques abeilles. Donc, d'habitude, on perd 10% des ruches par an, nous dit-il. Mais là, c'est vraiment quasiment tout qui est mort. Alors, à 30 km de là, il y a un autre personnage qui s'appelle David Tournoy, un plus jeune. Lui, il a le même constat. Ses ruches sont vides d'abeilles. Elles sont pleines de miel. Voilà. Mais il n'y a plus d'abeilles. Alors, sur le terrain de sa maison, cette ruche, j'ouvre les guillemets, je les ai regardées sans les ouvrir au mois de mars. J'en avais 5 vivantes sur 7. Et elles rentraient du pollen. 3 semaines plus tard, elles étaient toutes mortes. 100% de mortalité. J'ai du mal à croire que ce soit des conséquences naturelles. D'autant que l'apiculteur, lui, il a que des abeilles noires. Alors, il y a toute une histoire sur les abeilles, qu'il y a des abeilles noires qui sont des abeilles locales. Et puis, il y a des abeilles hybrides qui ont été importées, qui sont soi-disant plus fragiles. Et donc, il y en a qui disent, oui, mais c'est pas les produits phytosanitaires, c'est vos saloperies d'abeilles que vous avez importées, etc., etc. Non, lui, il a des abeilles noires qui sont robustes, qui sont rustiques, qui sont résistantes. Voilà. En Limousin, 50 à 100% des ruches sont mortes ce printemps. Un tiers des abeilles ont disparu en Bretagne. La Dordogne, le Doubs, l'Aisne, la Charente-Maritime rapportent aussi des situations catastrophiques. Alors, c'est pas l'histoire que l'hiver a été plus long qu'une autre fois. Il a peut-être un peu gelé comme ci, comme ça, mais c'est pas ça. Il n'y a pas de frelon asiatique. Vous savez que le frelon asiatique, c'est vraiment un prédateur terrible pour les abeilles. Il n'y en a pas, là, dans la Creuse. Il n'y a pas une maladie qui s'appelle la varroa. Il n'y a pas de loque américaine qui est une autre maladie. Il n'y a pas ça. Alors, pour les apiculteurs, il y a des soupçons évidents. C'est que c'est une intoxication massive aux produits phytosanitaires, notamment aux néonicotinoïdes. On en reparlera tout de suite à la fin. Donc, c'est une famille d'insecticides qui est utilisée dans le monde agricole. En fait, ça attaque le système nerveux des insectes. Ça les tue pas. C'est pas un poison. C'est un truc qui les rend complètement zozo. Et en fait, les abeilles qui butinent les cultures, ben, elles sont empoisonnées par ce produit. Et en fait, elles se perdent. Enfin, grosso modo,
C'est que les néonicotinoïdes, ça leur nique leur sens de l'orientation.
Voilà, en fait, elles meurent pas paralysées, non, elles meurent d'épuisement, mais parfois, c'est parce qu'elles ne retrouvent pas, elles ne savent pas retourner aux ruches. Voilà. Donc, c'est déprimant, nous dit cet apiculteur. Les pissenlits ont explosé d'un coup, tout est sorti et il n'y a rien dessus, rien. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'abeilles sur les pissenlits. On a beau interdire ces produits, il y en a autant qui arrivent aussitôt sur le marché. J'entends souvent, ça change petit à petit, mais bon, il suffit qu'ils changent le nom et hop, il y a des nouveaux produits. Alors, juste pour terminer, C'est simple, hein. Sans abeilles, pas de récolte. La pollinisation est indispensable à l'agriculture et au maraîchage. Sans abeilles, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de graines. Il faut que les choses soient claires. L'élimination systématique des fleurs des champs. Alors, il y a d'autres, effectivement, il y a d'autres paramètres qui affectent les abeilles, les insectes au sens large. C'est pas que les produits chimiques, mais il y a aussi le fait de faire une élimination systématique des fleurs des champs. Le fait de couper, de faire de la coupe systématique. Alors, ils prennent un exemple. Il y a à côté de cet homme-là, il y avait un champ de colza, je crois. Au moment où les fleurs sont sorties, il a tout coupé. Donc, en fait, il n'y a plus de ressources pour les abeilles. Et donc, un corollaire de tout ça, c'est que les insectes, on a parlé des oiseaux, il n'y a presque plus d'oiseaux dans les forêts, dans les campagnes françaises. 80% des insectes volants ont disparu en 25 ans. Cette fois, c'est l'Union nationale de l'apiculture française qui nous dit ça. Voilà. Donc c'est juste un drame terrible, on va s'arrêter là, hein, mais c'est assez mondial. 13 millions de ruches ont disparu en Europe. En 1990, la mortalité annuelle s'élevait à 80%. Cette année, on est à 80%. Donc, qu'est-ce que je dis ? Excusez-moi. En 90, c'était 5% de mortalité annuelle. Désormais, on est à 80%. Donc bon, on va peut-être faire quelque chose un jour, quoi. Et c'est pas en achetant une ruche pour son jardin ou en faisant pousser trois graines que non, il faut absolument que l'agriculture arrête les conneries, l'agriculture intensive.
Alors il y a eu un espèce de petit coup de bricolage qui a été fait au niveau de l'Europe, où il y a un insecticide qui a été interdit il y a pas longtemps là, et il semblerait que c'est un peu dramatique quand même là où on a dû en arriver. C'est-à-dire que Macron, comme Macron s'est fait le grand ambassadeur des chasseurs en France, est allé voir ses potes chasseurs, et les chasseurs ont dit non mais c'est vrai que nous quand même là ça fait quelques années qu'on a constaté que bon bah ok, les abeilles nous on en a un peu rien à foutre parce qu'on les chasse pas, mais peut-être que les écologistes ils sont pas complètement teubés, et nous en tout cas il y a plein d'espèces d'oiseaux qu'on aime bien zigouiller le dimanche et qu'on voit plus ou qu'on voit que très rarement ou qui n'existent plus vraiment. Donc voilà, et il semblerait bien que ces espèces d'insecticides soient responsables. Du coup, ils ont dit bon, alors si vous faites remonter en Europe un projet de loi visant à interdire tel type, je ne sais plus lequel exactement, parce qu'effectivement, il y a un panel tellement large que ce n'est pas parce qu'ils en interdisent un que le monde est sauvé. Et ben nous, on pourrait aller voir les multiples députés européens sensibles à la cause de la chasse, et on sait qu'ils sont nombreux, parce qu'il s'agit aussi d'un lobby, pour leur dire de voter en faveur de la loi, et cette loi est passée à 4 ou 5 députés près, et ces 4 ou 5 députés, c'est assez clairement les députés qui ont répondu OK au lobby de la chasse. Donc voilà où on en est de ces histoires-là, ah oui. C'est dire l'état de notre monde.
20h03.
Bon allez, on se casse, hein.
Ouais, alors on rappelle vite fait les quelques... moi j'ai un truc pour l'agenda, c'est tout. C'est par rapport à la ZAD. Alors je vous ai dit 18h place Raspail tout à l'heure. Non, ce n'est pas 18h place Raspail. C'est si le soir même de l'expulsion de la ZAD ou d'une nouvelle tentative...